cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 2 mai 1994.
Quelques petites questions. Donc, toujours par rapport à la famille. Alors, vous avez entendu la lettre du Saint-Père au chef d'État. Je crois que ça confirme ce que je vous avais dit. Et on doit le prendre ça très au sérieux. Ouvrez tous un chantier philosophie de la famille. Parce que quand le Saint-Père écrit de cette manière-là, il montre qu'il y a un danger. Que lui dénonce voir qu'est-ce que ça devient en terre chrétienne. Quel est l'aspect tradition religieuse qui commande ça? Y a-t-il un fondement naturel? Y a-t-il des coutumes qui font force de loi? Puis des lois. Mais alors ça dépend. C'est là où j'ai un point de vue très intéressant, point de vue politique, c'est toujours ce problème très délicat qu'on trouve avec la politique d'Aristote, avec la politique de Platon. Le contexte historique dans lequel s'élabore une politique est plus important en politique qu'en éthique. Et il est important pour nous bien préciser ça. Alors, pourquoi en politique le contexte historique et les traditions et le patrimoine jouent plus qu'en éthique personnelle? C'est quand même très important de comprendre ces choses-là. Oui, c'est comme exactement le problème qui se pose entre philosophie et théologie. En théologie, la tradition à une place dominante. En philosophie, la tradition n'a qu'une place secondaire. Ça ne veut pas dire que le philosophe est tout le temps révolutionnaire, hein, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que le philosophe essaie de comprendre par rapport à ce qu'il y a de fondamental dans l'homme. La nature humaine, c'est l'âme et le corps. C'est pas uniquement le corps. Aujourd'hui, la nature humaine, on ne regarde que le corps. C'est là la grossièreté du monde d'aujourd'hui. Il faut appeler les choses par leur nom. Réduire l'homme au corps, c'est affolant. C'est le genre animal. Et on en est là. Essayer de comprendre comment on peut affirmer certaines choses parce que c'est le seul aspect qu'on voit, cet aspect générique, cet aspect biologique, cet aspect psychologique. Ce que ça perdit, les sciences humaines ont une influence énorme au plan éthique aujourd'hui, bioéthique, et au plan politique. Humaine, la plupart du temps sera uniquement à l'aspect générique. Donc ça, il faut le découvrir soi-même. Et vous le découvrez dans la mesure où, réfléchissant sur ces problèmes, vous essayez de voir un peu les liens. Et à partir de là, on se pose des questions. Donc, voyez le droit d'aînesse. Dans quelle mesure il y a un fondement philosophique. C'est très délicat. Moi, je crois que ça touche beaucoup plus aux traditions d'un pays. Traditions religieuses. Traditions purement politiques. Le point de vue de la démocratie. Démocratie chrétienne, comme on parle de royauté chrétienne. Le régime. Ce serait ça l'idéal. Parce que si l'aîné est un osseur, il s'en fiche de tout. Tout. Il est l'aîné. J'ai le droit de succession. Alors on dissipe tout. Tous les biens. Selon l'évangile, c'est le cadet qui dissipe tout. Mais c'est pas pour dire que c'est toujours le cadet, hein. Surtout là, n'appliquez pas ça universellement. C'est quelquefois l'aîné. Alors, il perd son droit d'aînesse. Il aime mieux la chasse que son droit d'aînesse. Et donc, il met sa finalité dans la chasse. Il perd son droit d'aînesse. Vous voyez ? Donc, là, on voit le point de vue de la finalité. L'aîné, ça devrait être celui qui a le plus le sens du patrimoine. Au très grand sens. Et le plus grand sens de la finalité. Oui, alors il y a l'aîné biologiquement et il y a l'aîné spirituellement. Alors c'est pour ça que c'est très délicat. Et je crois que ça reste très intéressant à voir, ça, que il y a l'aîné biologiquement, génétiquement. C'est pas nécessairement lui qui est le plus intelligent de la famille. C'est pas nécessairement lui qui a le plus grand sens de la famille. Quand il a été bien éduqué, bien élevé, ordinairement c'est comme ça. L'aîné a un sens particulier du patrimoine. C'est très curieux. Mais très souvent c'est comme ça. Dans les familles un peu traditionnelles, c'est comme ça que ça se voit. Et c'est pour ça que je dis, c'est lié à tout un contexte familial et un contexte de tradition religieuse. Donc c'est complexe. Faut pas établir trop vite. Ce n'est pas essentiel, mais je crois que ça joue du côté éducation. Le religieux, en tant qu'homme, est un être politique. Oui. Quelle est son attitude face au gouvernement de la cité? Au Moyen Âge, quand on a un État qui respecte le point de vue chrétien, hein, qui reconnaît le point de vue chrétien comme regardant l'homme tout entier et la personne humaine, du fait qu'on fait des vœux de religion, on demande de ne plus faire partie de l'état du monde. Je me souviens, c'est une des choses que j'ai ressenties comme ça personnellement quand je suis arrivé à Fribourg. Il y avait pas mal de Français, parce que c'est eux qui s'adressaient, qui savaient qu'il y avait un père français tout de suite, bon, qui passait la frontière suisse d'une façon clandestine. T'es sûr? J'avais sur mon passeport le numéro 10, moi, quand je suis passé. Je suis pas passé de façon clandestine. Parce que j'avais un motif politique. Suisse, du canton de Fribourg, qui est catholique. contre signée par le supérieur, puisque c'est la communauté. En tant que religieux, vous n'avez rien. C'est la communauté qui se chargera de cet individu. Si il y a des difficultés, ce n'est pas l'État de Fribourg qui le nourrira, mais c'est la communauté dominicaine qui est là. Ils avaient le droit de faire ça. C'est tout à fait juste. S'il y a une alliance entre l'État et l'Église. Vous voyez, alors c'est très délicat cette question que vous posez là. Tout dépend si l'État est purement laïque, comme l'État français actuel. Il y a quelques traditions qui demeurent curieuses, qui sont en contradiction avec les idéologies. Mais il y en a, parce que la tradition est plus forte que n'importe quoi. Mais devant un État qui ne reconnaît absolument pas ce que c'est que la vie religieuse, il est évident, et le droit canon le demande, le droit canon nous dit que, et l'Église nous demande, d'accepter de faire son service militaire. L'Église ne demande pas à tous les religieux qui sont bons pour le service militaire de poser la question de conscience en disant « En tant que religieux, je ne fais pas mon service militaire. » L'Église pourrait demander ça. L'Église pourrait demander ça. Le curé d'Ars, vous savez bien, a posé cette question-là sous Napoléon. Cette guerre n'est pas légitime. Je ne fais pas service militaire. Je ne me rends pas. Il est arrêté. Il est saint. C'est très intéressant de voir sur un décor comme ça, parce qu'on voit très bien que là, l'Église laisse à chacun. À chacun. C'est pour ça qu'on voit, on me demande conseil, je dis. En tant que supérieur, je ne peux vous laisser que ce que dit l'Église. Je peux vous donner un ordre. Vous n'êtes pas vos services militaires. Non. L'Église demande à chacun de prendre la scène. Vous ne pouvez pas dire, on m'a demandé, le supérieur m'a demandé de ne pas faire de service militaire. Non. Je ne peux pas. Vivez en conscience. Alors, on peut donner un conseil. Mais ce conseil n'est pas un ordre. C'est chacun, et l'Église demande à chacun de prendre en conscience ce qu'il doit faire. Et c'est constamment comme ça quand il s'agit actuellement des rapports entre l'État et l'individu. Pendant la guerre, c'était comme ça, vous voyez. Quand on recevait quelqu'un qui était poursuivi, le supérieur, c'était le père Avril, là où j'étais, comme dominicain. Et j'étais père maître. Le supérieur a dit à chacun, à tout le monde au chapitre, si vous recevez quelqu'un que vous jugez bon de le recevoir pour sauver sa vie, qu'il ne soit pas pris, si vous jugez que c'est légitime, vous en prenez toute la responsabilité. Et moi, en tant que supérieur, je ne veux pas le savoir. Parce que si c'est moi qui ai arrêté, c'est tout le couvent. Tandis que vous, ben vous irez en prison, très bien. Vous avez pris la réponse. Et vous acceptez d'aller en prison. Et d'avance, je vous disais, la situation est telle que vous devez prendre cette responsabilité. Voyez. C'est le supérieur à ce moment-là qui dit à chaque individu, on est dans des situations telles que à ce moment-là, vous pouvez, en tant que citoyen, recevoir un autre, et je vous le permets. C'est comme ça qu'on avait reçu Jean Bernard, le professeur Jean Bernard. et se consacre totalement à Dieu n'est plus un citoyen. Ça peut se faire. Alors à ce moment-là, en entrant en vie religieuse, on sait qu'on n'est plus citoyen. C'est tout. Ça ne changerait pas grand-chose, je crois, pour beaucoup qui font leur profession. On fait profession, si on est totalement donné à Dieu. On ne sait pas très bien quels sont les liens. On vous demande de faire un testament. Ce testament est plus ou moins légal. Mais il est spirituel, il est moral. Mais on vous demande de faire un testament. Donc de mourir à vos droits. À vos droits de propriétaire. Or, le droit du citoyen, c'est d'être propriété privée tant qu'on n'est pas dans un régime socialiste absolu. Vous voyez, donc, l'Église demande quand même toujours ça. Et l'Église peut très bien, s'il est ordonné que de fait, par la profession, on n'a plus aucun droit de citoyen. Quand l'État ne reconnaît pas ça, l'Église dit, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, c'est vraiment ça que l'Église nous dit.
Jusque-là.
vœu solennel, qui prennent tout. Si tu restes pour ça, qu'on dit vœu perpétuel, maintenant un oubli solennel. À cause de ça. C'est très très curieux tout ça, vous voyez. Et c'est très intéressant parce que ça nous oblige de mieux réfléchir sur ce que c'est que la vie religieuse.